原本居住在起点县偏远的。Hollywood stars get
camaros. يقضون الليل بالنهار استعدادا لما
قد يكون. ¿Cuál sería su reacción?
Of course not.
I don't know of any program in Uganda.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours entre 11h et 11h50, dans laquelle vous retrouverez la chronique Frontières d'Alexis Patochtef, mais aussi l'histoire de Marc Kravetz. Bonjour Marc Kravetz.
Bonjour Florian Delorme, bonjour à tous.
Alors cette semaine dans Culture Monde, nous nous intéressons à la traduction. Lundi, nous étions au Salon du Livre, nous avons parlé de traduction des littératures nordiques, puisque ce sont les littératures nordiques qui étaient à l'honneur de ce 31e Salon du Livre de la Porte de Versailles. Nous étions avec Elena Balsamo, Anne Rag, d'auteur norvégienne, et puis sa traductrice Hélène Hervieux. Hier, c'est de la traduction à l'heure de la mondialisation dont il était question avec Mikhaël Oustinov. Demain, nous nous demanderons si Internet est l'avenir de la traduction. Leila Dakhli, historienne, sera notre invitée. Mais aujourd'hui, nous parlons de la question des langues et de la traduction en situation de conflit. Des conflits, on a aujourd'hui au moins trois principaux dans lesquels l'Occident est engagé, l'Irak, l'Afghanistan et bien sûr maintenant la Libye. Nous allons parler ce matin de la question du langage, du passage d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, dans chacun de ces cas avec notre invité Mathieu Guider. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes professeur de la chaire d'islamologie à l'Université Toulouse 2, agrégé en arabe. Vous êtes auteur entre autres d'Iraq in Translation, Les Nouveaux Terroristes, qui étaient parus chez Autrement, et puis Apparaître, le choc des révolutions arabes. Ça sera apparaître au mois de mai. Donc, mais avant de parler ensemble de ces différents lieux de conflit, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, Mathieu Guider, je vous propose un petit retour en arrière, une petite référence à notre thème de la semaine, avec cette archive choisie par Mathias Mégier. Écoutez.
La visée même de la traduction, ouvrir au niveau de l'écrit un certain rapport à l'autre, féconder le propre par la médiation de l'étranger, heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture, ou cette espèce de narcissisme qui fait que toute société voudrait être un tout pur et non mélangé. Dans la traduction, il y a quelque chose de la violence du métissage. Peu importe qu'au niveau de la réalité, une culture et une langue vierge soient aussi fictives qu'une race pure. Il s'agit ici de souhaits inconscients. Toute culture voudrait être suffisante en elle-même pour, à partir de cette suffisance imaginaire, à la fois rayonner sur les autres et s'approprier leur patrimoine.
Mathieu Guider, vous n'avez pas reconnu cet extrait d'une lecture de L'épreuve de l'étranger
d'Antoine Bernand. Bien sûr.
Voilà, exactement, traductologue français. C'est un extrait qui avait été diffusé dans l'émission Les chemins de la connaissance en février 1993. Toute culture se voudrait être suffisante en elle-même pour rayonner sur les autres et s'approprier leur patrimoine. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette lecture particulière d'Antoine Bernand, et puis peut-être plus généralement cette fameuse épreuve de l'étranger qui va avec l'exercice de la traduction?
Alors justement, je crois que ce qu'il faut retenir d'Antoine Bernand, c'est cette épreuve de l'étranger. Comme il l'indique clairement, l'épreuve est à double tranchant, c'est-à-dire c'est à la fois un examen de passage face à cet étranger et en même temps, on éprouve quelque chose à son contact. Antoine Bernand a essayé de donner, à travers l'étude des romantiques allemands, la réaction des Français face à cela. Mais il n'avait pas été confronté au conflit et il n'a pas étudié la question de l'épreuve de l'étranger dans les conflits, qui est un peu différente, qui se pose en d'autres termes. Elle reste une épreuve réelle et non pas uniquement intellectuelle.
Pour autant, il voit bien que dans la traduction, il y a quelque chose de la violence du métissage, dit-il.
Tout à fait. La violence du métissage, dans le cas présent, c'est même une violence du contact. La violence du métissage signifie que la personne habituée à sa propre identité, habituée à son propre environnement, ne conçoit pas la différence ou éprouve une difficulté à intégrer cette différence en elle-même, à l'accepter en elle-même, et la traduction, par le truchement qu'elle fait de passage d'une langue à l'autre, amène cette différence chez soi, et c'est très difficile d'accepter en général cette différence, parce que justement elle intègre des mots, des idées, des concepts, des valeurs qui sont en général inconnues ou méconnues du public.
Allez, on va faire la liaison avec Raphaël Antoven qui était juste avant nous. On va parler un tout petit peu de philosophie. Nietzsche a beaucoup évidemment conceptualisé la guerre dans ses œuvres, notamment dans ce projet de livre « La volonté de puissance ». ébauché et abandonné, dont le titre est devenu d'ailleurs plus tard inversion de toutes les valeurs, mais quoi qu'il en soit, pour Nietzsche, la guerre, le conflit guerrier, c'est le refus de la langue de l'autre, c'est le refus de la culture de l'autre, c'est la négation même de la traduction.
Tout à fait. Alors,
le conquérant n'a pas besoin de la langue de l'autre.
Exactement, c'est exactement cela. Dans la volonté de puissance, il y a, alors, du point de vue philosophique à proprement parler, la question du langage se pose comme une force intellectuelle par opposition à la force physique. Autrement dit, pour simplifier, disons que la personne va utiliser sa force physique lorsque probablement elle n'a plus le moyen d'atteindre son objectif par la parole, c'est-à-dire par la pensée traduite en parole. Et cette opposition entre le corps et l'esprit, pour ainsi dire, qui se reflète dans la violence ou dans la parole, a sa traduction dans le langage, et il est très difficile de la traduire. Et partant de ce constat entre force physique et force intellectuelle traduite dans le langage, eh bien Nietzsche va considérer que les puissants n'ont pas besoin véritablement de traduire, puisqu'ils ont déjà la puissance qui leur a permis d'intégrer cela, et ils considèrent que la traduction, c'est en fait la valeur du faible, pour ainsi dire.
Et là, on l'applique tout de suite au conflit qui nous intéresse bien sûr tous aujourd'hui, la Libye bien sûr, parce que, alors là, on le retrouve dans les deux sens. Kadhafi, par exemple, vous m'expliquiez ça, et d'ailleurs, Marc me le confirmait, Kadhafi se refuse à parler en anglais, alors qu'il maîtrise cette langue-là. Il exige qu'on lui traduise, ne veut ni essayer de le comprendre, ni même surtout l'utiliser.
Tout à fait. Et là, on voit la dimension idéologique et politique du langage. Effectivement, Kadhafi, hier soir encore, il a parlé à la télévision libyenne, et malgré le fait qu'il ait fait des études en anglais, qu'il maîtrise correctement, il parle correctement l'anglais, eh bien, il va refuser quasiment systématiquement de parler en anglais parce qu'il estime que c'est la langue de hégémonique, c'est la langue de l'ennemi, et il ne veut pas se soumettre intellectuellement, se soumettre culturellement à cette langue. C'est une question de perception, en fait, du langage, davantage que le langage lui-même.
Alors dites-nous, justement, dans cette intervention télévisée, Mathieu Guider, qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont les mots qu'il a utilisés? Les formules? Comment s'est-il adressé à son peuple? Comment on perçoit le message?
Je vous traduis son message, en réalité.
Allez-y, oui.
Alors, si je traduis le message, vous allez voir tout de suite la difficulté et la problématique de tout ce cycle de conférences. Si je traduis littéralement son message, il a dit qu'il avait la vérité absolue avec lui et c'est pour cela qu'il gagnera cette guerre. Si je vous traduis cela de façon littérale, je ne suis pas sûr que le terme ou l'expression « je suis la vérité absolue » ou « j'ai avec moi la vérité absolue, donc je vais gagner » vous dira quelque chose, parce que dans la langue française, avoir avec soi la vérité absolue, « al-yaqin », c'est le terme qu'il a utilisé en arabe, « al-yaqin al-mutlaq », eh bien, de dire qu'il a la vérité absolue avec lui ne dit rien au locuteur, à l'auditeur français. Mmh. C'est un mot presque abstrait qui n'a pas d'ancrage immédiat. Donc je suis obligé d'interpréter.
Mais qu'est-ce qu'il dit au locuteur arabe?
Alors, ce qu'il dit au locuteur arabe, c'est une référence forte à la culture islamique, à la culture musulmane, dans laquelle il dit qu'il a la vérité avec lui, c'est-à-dire qu'il a Dieu avec lui, que Dieu l'aide, que Dieu est avec lui. Or, cette référence religieuse, cet ancrage spirituel dans la culture, n'est pas immédiatement accessible à l'auditeur français ou occidental en général. Cela nous emmène d'ailleurs, dans le cadre des conflits, à une double approche. Vous avez une approche qui est littéraliste, pour ainsi dire, qui va vous dire « on traduit littéralement le langage, quitte à ce qu'il ne soit pas accessible ». Et donc on parle d'approche sourcière. Qui se focalise sur la source, sur celui qui parle, et qui ne va pas chercher à faciliter ou à faire comprendre à celui qui reçoit le message. Et vous avez par ailleurs une approche totalement différente qui dit que si on traduit, c'est pour que les gens comprennent au sens réel, pas au sens juste formel, la situation.
Ça, c'est l'approche cibliste.
C'est l'approche cibliste, tout à fait, qui va essayer, non pas de traduire les mots, mais ce que la personne a voulu dire à travers ces mots. Et là, on est dans l'interprétation, c'est-à-dire je suis obligé de me mettre à la place de celui qui parle, de comprendre réellement ce qu'il a voulu dire et non pas ce qu'il a dit, et de traduire dans mes propres mots, dans les mots de celui qui me reçoit, ce vouloir dire.
Et est-ce que vous pensez que lorsqu'on écoute, par exemple, les messages de Muammar Kadhafi, est-ce qu'on a cette approche cibliste, ou est-ce qu'on reste pas un petit peu trop sourcier, justement?
Alors,
pour le coup,
aujourd'hui, malheureusement, comme la plupart des traductions qui sont faites de ce conflit concernent les dépêches de presse, concernent l'événementiel. Dans ce domaine-là, on est dans une approche littérale, c'est-à-dire que les traducteurs en question sont en général des journalistes, ne sont pas véritablement dans une approche de rapprochement des points de vue. Ils veulent donner uniquement les choses telles quelles, quitte à après aux analystes de le faire. Donc on est plutôt dans une approche littéraliste. Le problème dans le cas présent, c'est que se superpose sur la question de la traduction, la question de la propagande politique et la question de la guerre des mots. Donc en réalité, il est là le cœur du problème, c'est que dans la situation de conflit, on n'est pas uniquement en train de traduire du texte ou de traduire les mots du langage, on est dans la guerre des mots. Cette guerre des mots, elle est à l'intérieur de la culture elle-même, parce que Kadhafi va sélectionner à l'intérieur de la langue arabe elle-même un certain ensemble de mots qu'il va mettre en bataille, en quelque sorte, en régiment, pour convaincre déjà son peuple, et ensuite cette construction idéologique va affronter une autre construction idéologique qui est dans le langage discursif, qui est de notre côté. On peut le voir à travers les mots, c'est-à-dire au moment où comment on désigne certaines choses.
Mais justement, prenons un mot, la croisade. C'est un mot qui a été utilisé, j'allais dire, du côté occidental. En tout cas, on l'a entendu dans la bouche de Claude Guéant, mais on l'a aussi entendu dans la bouche de Mouammar Kadhafi. On l'a entendu des deux côtés. Alors, je sais pas, du côté de Kadhafi, quelle est la signification exacte. Je suis pas arabophone, donc je sais pas quel est le terme exact qui a été utilisé, mais en tout cas, on le retrouve là, pour le coup, des deux côtés. Il y a bien une convergence.
Alors, ce n'est pas une question de convergence, c'est une question de comment on identifie les choses. Lorsqu'on prend ce cas précis, Kadhafi ne parle pas, alors qu'il y a deux mois, il parlait des Européens et des Américains. C'est-à-dire, il utilisait vraiment le terme pour dire les Européens, les Américains. Depuis que le Conseil de sécurité a voté cette résolution pour la protection des civils, eh bien, il va parler des Européens et des Américains de façon indifférenciée. Il va les désigner comme les croisés. Et les croisés, c'est-à-dire, il va utiliser le terme arabe as-salibiyoun. Et ce terme arabe a une épaisseur historique. Il est le terme qui a été utilisé entre 1095 et 1261 pour tous les francs qui ont été en Terre Sainte, et donc on est dans une référence véritablement médiévale. Cette identification, cette désignation de l'autre par un nouveau terme change son identité. Elle est là, la question. Du côté européen, pendant ce temps-là, nous n'avons pas désigné Kadhafi. Personne en Europe ni en Occident n'a désigné Kadhafi comme, par exemple, en disant les mauresques ou les barbaresques ou les corsaires ou une qualification qui ressortirait du Moyen-Âge et qui serait l'opposé de ce qu'il raconterait, lui, dans cette situation. Donc, on est aujourd'hui dans cette guerre des mots qui se positionne au niveau de désignation des individus, des désignations des faits, des désignations des opérations et même de la communication habituelle. Et le traducteur est confronté à cela. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il traduit littéralement? Est-ce qu'il explique?
Qu'est-ce qui aujourd'hui assure, en tout cas essaye de faire le lien entre les Occidentaux et les Libyens? Est-ce qu'il y a des Libyens, par exemple, qui font le pont entre les populations et les Occidentaux?
Oui, tout à fait. Ils essayent, par exemple, d'expliquer ce qu'il faut prendre au sérieux. Il y a pas mal d'intellectuels libyens. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont été formés aux deux cultures, qui essayent de faire le lien entre les deux, de dire ce qu'il faut prendre au sérieux, qu'est-ce que cela veut dire, comment il faut interpréter certains discours, certaines postures intellectuelles, certains tics de langage utilisés. Et on en a besoin, parce que si on n'a pas la culture libyenne.
Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est des messages qu'on peut recevoir dans des situations de conflit? Parce qu'il faut quand même intellectualiser, il faut analyser. Enfin, quand on est dans une situation de guerre, est-ce qu'on a, j'allais dire, le temps et le souci, ce souci-là?
Il est fondamental, ce souci. Je donne un exemple précis. Lorsque Kadhafi dit, lors de son premier discours au peuple libyen, il s'adresse à son peuple, il leur dit « vous êtes des rats », au sens propre, c'est le terme utilisé, c'est « jordan », « vous êtes des rats, je vais chercher rue par rue, je vais nettoyer rue par rue votre pays », lorsqu'il le dit ainsi, que je le traduis littéralement, l'Occident, est-ce qu'il doit s'affoler ou non? Est-ce que véritablement il doit prendre au sérieux que Kadhafi considère son peuple comme des rats qu'il va tuer un ou non? Donc on est obligé de connaître quelle est la valeur culturelle de la désignation métaphorique qu'il a utilisée, de demander aux gens est-ce que vraiment ils le pensent ou non, pour savoir quel est le degré d'urgence de ce discours politique.
Et laquelle est-elle ? Aidez-nous.
Eh bien, dans le cas présent, effectivement, il est traité comme ne demande de rien. Il leur a dit que la Libye, c'est lui qui l'a construite, c'est une nation qui n'existait pas avant lui et que c'est lui qui l'a construite. Et donc, on sait qu'il pensait réellement ce qu'il leur disait. C'était la dévalorisation qui rentre dans la guerre psychologique. Et dans cette guerre psychologique, elle vise bien évidemment à réduire l'ennemi, puisque désormais, il considère qu'il y a des ennemis, des traîtres à l'intérieur de son propre pays. Il utilise le terme de traître, y compris pour des Libyens. Et là, on est véritablement dans la guerre interne, la guerre psychologique à l'intérieur du pays.
Traître, c'est évidemment aussi un mot qui nous rappelle un autre conflit, celui
de l'Irak.
De l'Irak, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Ibrahim Malouf, trompettiste libanais, fils de Nassim Malouf, qui a créé cette trompette capable de produire des quarts de ton, des trois quarts de ton, donc un instrument sur lequel on peut jouer un concerto classique et un samaï pour accueillir Bassam Baraké, qui est professeur de linguistique à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université libanaise de Beyrouth, qui est secrétaire général de l'Union des traducteurs arabes. Vous êtes à Beyrouth, on s'intéresse aujourd'hui, Bassam Baraké, à la question du langage, de la traduction sur les lieux de conflit. Je voudrais que vous nous fassiez un petit peu comprendre le genre d'erreur d'interprétation qui peuvent avoir lieu lors d'une guerre. Donnez-nous des exemples, Bassam Baraké.
Oui, en fait, généralement, les erreurs de traduction d'une langue à une autre, ça peut être linguistique, donc qui relève des équivalences entre les mots. Ça peut être aussi situationnel, donc dans la communication, qu'est-ce qui arrive, et ça peut être culturel. En fait, dans les conflits, ce qui arrive, c'est principalement la situation. L'interprétation dans un lieu de conflit, il y a un interprète qui est le plus souvent pris comme le porte-parole de celui qu'il traduit. Et donc, généralement, il est confondu avec l'étranger par la population locale et qui s'adresse directement aux gens. Il est considéré comme faisant partie du camp des étrangers qui viennent de l'un ou l'autre camp. Par exemple, j'aimerais bien vous donner un exemple qui concerne la situation, le fait d'invectiver quelqu'un ou de s'adresser à quelqu'un. Si par exemple dans un cas précis, vous dites à quelqu'un stop ou halt, bon, il s'arrête, vous lui demandez de s'arrêter. En arabe, l'équivalent n'est pas un seul mot. Ça dépend si l'on s'adresse à un homme ou à une femme. On dit kuf ou kufi. Donc, les deux mots, s'il s'agit par exemple d'une femme et que l'interprète se trompe et dit bon halt comme s'il s'adressait à un homme, la femme peut ne pas s'arrêter et peut-être le soldat qui demande cela considère comme si elle était une terroriste ou autre. Donc, dans des situations pareilles, l'interprète doit faire beaucoup attention, non pas ou non seulement à la langue, mais plutôt à la situation de communication, aux personnes qui participent à la communication.
Donc là, c'est un problème, une difficulté par rapport au genre, selon si on s'adresse à un homme ou à une femme. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'erreurs linguistiques ou d'erreurs situationnelles ?
Oui, c'est-à-dire l'erreur linguistique, on prend en général des mots qui ont un sens en français, mais qui ont plusieurs sens en arabe, ou inversement, donc ça c'est le cas de la polysémie. Alors on risque de se tromper, si par exemple, je dis en Irak, on dit en arabe le mot mafsout. Mafsout, ça veut dire quelqu'un qui a été frappé. Alors que ailleurs dans le monde arabe, mabsout, ça veut dire qui est heureux, qui est content. Donc la différence de sens d'une région à une autre et la polysémie du mot arabe risque d'être mal interprétée par celui qui reçoit le mot. Si c'est un Libanais par exemple qui traduit, qui fait l'interprétation et dit à l'autre est-ce que vous êtes mabsoute, alors là cela veut dire, c'est comme s'il lui disait est-ce que vous avez été frappé. Le même mot a deux sens et peut être confondu dans la traduction.
Allez, peut-être un troisième et dernier exemple, Bassam Baraké.
Un exemple toujours d'un point de vue situationnel. Lorsque par exemple le plus souvent en français on utilise on. On veut ceci, on est allé là-bas, on va faire ceci. En arabe, il n'y a pas d'équivalent. Alors, selon la situation de communication, si l'interprète peut ne pas comprendre exactement ce que veut dire « on », est-ce que c'est « moi » et « toi », c'est-à-dire « nous », est-ce que c'est « vous », est-ce que c'est « eux » ou bien c'est « est-ce que n'importe qui ». Si on dit « on a besoin d'un plus petit que soi », c'est ni « moi » ni « vous », c'est « n'importe quelle personne ». Donc entre on, n'importe quelle personne, on, moi et vous, on, vous, ou on, le directeur, ou l'autorité ou autre, on risque de tomber dans des erreurs de traduction et dans des milieux de conflit, l'erreur est grave et... comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interprète est considéré comme le porte-parole, puisque c'est lui l'énonciateur, puisque c'est lui qui parle, donc c'est lui qui est pris à partie, en fait, parce que justement, il est considéré comme prenant la parole de celui qui l'interprète.
Merci beaucoup, Bassam Baraké. Vous étiez avec nous depuis Beyrouth. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union des traducteurs arabes. Mathieu Guider, une réaction au propos de Bassam Baraké à cette polysémie des mots qui peuvent, selon les régions, avoir un sens différent.
Oui, on oublie aussi que, effectivement, les exemples sont très bien choisis. On oublie souvent que le monde arabe n'est pas unifié. Le monde arabe, c'est au moins 22 pays, 22 dialectes, et dans chaque pays, il y a énormément de régions. Et cette compréhension, effectivement, de la langue diffère d'un pays à l'autre. Et le traducteur, s'il ne connaît pas les variantes régionales, y compris pour l'arabe littéral, eh bien, peut faire des contresens et peut aboutir à des contresens dramatiques.
Si on revient à la Libye.
Bien, pour la Libye, là encore, si vous ne connaissez pas l'usage libyen de certains mots de l'arabe, c'est-à-dire ce qu'ils mettent comme sens dans le mot, parce que le mot est un contenant en réalité, c'est une enveloppe d'une idée, une enveloppe de quelque chose que l'on veut dire. Si vous connaissez que l'enveloppe, mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a dedans, eh bien, vous allez traduire l'enveloppe et vous allez passer à côté du sens.
Et si je vous propose l'aube de l'Odyssée, Dawn of the Odyssey, ça c'est le nom de l'opération militaire.
Oui, alors là,
coalition.
Vous avez pris un exemple intéressant de double traduction, puisque le terme choisi, c'est l'anglais, Dawn of the Odyssey, qu'on a déjà traduit.
Que nous, on a traduit en l'aube de l'Odyssée.
Alors qu'on a traduit en français, aube de l'Odyssée, je suis pas sûr qu'il dit grand chose aux Français, déjà. Est-ce que les Français mettent dans aube de l'Odyssée quelque chose d'extraordinaire?
Je crois pas, non.
Voilà. À partir de là, les Français, d'ailleurs, conscients de cela, le centre, alors il y a en France...
Qu'est-ce qu'il faut y voir d'abord en français, Mathieu Guider?
En français, je crois que si vraiment on a un minimum de culture, on verrait l'Odyssée, tout le monde sait ce que c'est. Tout de même, on est dans une référence assez ancienne, on verrait le début d'une épopée de quelque chose. On sait qu'il y a un départ, un retour aux sources, et puis le début d'une histoire qui est difficile. Et donc, il y a une épopée, probablement, celle de la démocratie. Et les Américains ont voulu donner, à travers cela, le début, probablement, l'aube de la démocratie qui va commencer. Mais les Français, comme vous avez pu le remarquer, n'étaient pas véritablement très convaincus par ce nom. Donc, ils ont choisi leur propre nom pour cette opération.
Et maintenant, comment ça se passe quand on passe de l'autre côté, qu'on traduit en arabe?
Alors, en arabe, il a fallu d'abord que les Arabes eux-mêmes, c'est-à-dire les organes de presse, les journaux, qu'ils traduisent ce mot-là. Donc, il y avait une double traduction. Certains ont opté pour la traduction de « aube » et « odyssée ». Mais le problème, c'est que lorsque vous traduisez « aube », ça marche encore. Mais lorsque vous traduisez « odyssée » par « malhama », le mot arabe, il se trouve que dans certaines régions du monde, « malhama » veut dire « boucherie ». Donc, ils ont choisi de ne pas traduire le deuxième mot. Et ils ont gardé « Ob en arabe et Odyssée en français ou en anglais. Donc aujourd'hui en arabe, l'usage qui est utilisé pour cette opération, c'est l'aube de l'Odyssée, c'est-à-dire Fajr al-Odissa. Ils ont gardé les deux mots.
Carla Zafostino, pour introduire votre histoire du jour, Marc Kravets.
C'est de la musique guatémaltèque qu'on entend, et plus précisément de la musique traditionnelle maya. Vous allez comprendre pourquoi, c'est le contexte de notre histoire, qui est une histoire d'interprète en effet, mais cette fois la version d'un journaliste, une version de journaliste, comme vous voudrez. Vous savez, les reporters parlent rarement les langues des pays dont il relate l'activité. Alors, je parle là de gens qui travaillent sur le terrain, pas du journalisme de salon, enfin, au bon sens du terme, ou de bureau, hein, quand on travaille avec les gens. Et la langue qu'on ne parle pas, même si, à la rigueur, on pourrait entendre, par exemple, l'arabe, ou enfin, des grandes langues de ce type. Je ne parle pas évidemment de l'espagnol ou de l'anglais. Je parle de la langue des gens, celle qu'on entend dans la rue, voilà, pas forcément les champs de bataille. On se fait un petit film là autour des guerres et des conflits, mais la vérité de la guerre, c'est des conflits, c'est d'abord ce qui se passe là où précisément il n'y a plus de champ de bataille d'ailleurs depuis la bataille de Fontenoy, mais c'est une autre histoire. Donc la langue qu'on ne parle pas, c'est pas celle des officiels ou des chargés de communication. Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'interprètes, hein, des professionnels de qualité pour traduire au plus près les discours, les communiqués, les entretiens avec les notables, mais c'est d'autre chose dont je vous parle. De ce qui nous donne accès, même à minima, à ce que vivent les gens dans un conflit. Il y a une espèce de vérité particulière de la vie en conflit. Et l'histoire que je vais vous raconter, après cette longue parenthèse, elle, c'est, alors j'ai à dessein évidemment pas choisi une histoire personnelle ou contemporaine, je suis un peu remonté dans l'histoire. Et l'homme dont je vais, qui porte cette histoire, alors on le connaît plus, évidemment, pour son œuvre dramatique, c'est un de nos plus grands poètes vivants, il s'appelle Armand Gatti. Donc il a une œuvre immense. On a tendance à oublier qu'il fut aussi journaliste, et il a travaillé pendant 10 ans d'ailleurs, pour Le Parisien Libéré, entre 1944 et la mi-1950. En mai 1954, il avait été couronné par le prix Albert Londres pour un reportage sur les dompteurs, qui s'appelait Envoyé spécial dans la cage aux fauves. Et du coup, Le Parisien Libéré a décidé de faire de son reporter un grand reporter, et de l'envoyer, alors en général ça se passe au contraire, le prix Albert Londres est accordé à des grands reporters, là c'était un reporter qui avait travaillé en France, formidable reportage, il devient donc entre guillemets grand reporter, et on l'envoie au Guatemala, qui est son premier reportage à l'étranger. Le contexte, très rapidement, on est en 1954, un coup d'état va renverser le premier président démocratiquement élu au Guatemala, qui s'appelait à l'époque Jacobo Arbenz, il y a eu des élections libres, et donc un président plutôt orienté, disons progressiste, à gauche, réformiste, on dirait pour l'époque. Enfin, les mots sont un peu flous, mais c'était un peu au contraire et à rebours de ce qui se passait ailleurs, qui avait décidé de faire une grande réforme agraire. C'est là que tout va se nouer, dans un pays où 2% de la population possède près de 80% des terres, et le principal propriétaire terrien à l'époque était la United Fruit, qui était quasiment le monopole de la banane. On doit à la United Fruit d'ailleurs le mot de république bananière, qui a eu plusieurs usages depuis. Bref, ça déplaît beaucoup aux Américains, aux Américains du Nord, Yankees, qui décident que, en gros, Arbenz sent le soufre, ou plus exactement le rouge, qu'il y a un complot soviétique qui se prépare dans leur arrière-cour au Guatemala, et la CIA, qui est dirigée par Allen Dulles, le frère du secrétaire du département d'État, qui est Foster Dulles, si je cite ces deux noms, c'est que l'un était un ancien cadre dirigeant de la United Fruit et l'autre son avocat. Et ils sont au pouvoir aujourd'hui, mais enfin tout se tient, et ils décident, en gros, on va renverser ce Jacobo Arbenz, et ils le font comme il a dit, ça va dégénérer en guerre civile. Et c'est donc dans ce contexte que Armand Gatti débarque à Guatemala Ciudad en 1954. Et vous savez, dans ce genre de terrain, un reporter doit nécessairement choisir son camp. Alors, l'entendez pas au sens partisan, c'est simplement parce qu'un journaliste n'a pas le ton d'ubiquité. On est ici ou on est là. Alors, généralement, on est plutôt, non pas forcément du côté du manche et du vainqueur, on est là où c'est plus confortable, où les gens parlent une langue commune, généralement l'anglais, en l'occurrence l'espagnol. Tandis que si on va de l'autre côté, dans des villages, voir des paysans, les difficultés commencent. C'est ce que choisit Armand Getty, qui va rejoindre un petit maquis de paysans amérindiens, en l'occurrence des Mayaquiche, voilà, d'où la chanson. Problème qui résiste comme ils peuvent, là, ce qui est en train de se passer avec leur machette. Problème, c'est que personne ne parle même l'espagnol, sauf un jeune indien qui s'appelle Felipe. Et il a 17 ans, qui parle en effet l'espagnol et le dialecte local. Et il va se passer, évidemment, grâce à cela, Armand Getty va pouvoir écrire réellement ce qui se joue à l'intérieur de ce conflit, pas seulement des rapports de force, des communiqués militaires, je vais gagner, j'ai déjà gagné, etc. Mais réellement ce qui se passe dans la tête des gens. Alors, je vous passe évidemment tous les détails car on n'aurait pas le temps, sauf qu'à un moment donné, le petit groupe dont il fait partie est encerclé par l'armée, Getty et son interprète Felipe sont isolés, se cachent derrière un monticule, s'attirent de partout. À la fin, donc, Getty dit bon, je suis journaliste, je vais passer devant. Il n'y a pas d'autre choix que de se rendre. Il lève les mains avec sa carte de presse. Il dit ne tirez pas, nous sommes journalistes. Finalement, les soldats les font sortir de leur trou et vont séparer le journaliste, le gringo. Il pense que c'est un Américain, d'ailleurs, le Hanky, mais bon, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Et quant à Felipe, l'Indien, ils lui disent, toi, t'es Guatémaltèque, reste avec les Guatémaltèques. La suite, bah, on l'imagine déjà, ça prend du temps, la bureaucratie, les militaires. Et finalement, donc, Getty va retourner à Guatemala Ciudad, et Felipe, l'Indien, son interprète, est exécuté avec les autres Indiens, en dépit des protestations, évidemment, du journaliste. C'est l'une de ces histoires dans laquelle on s'aperçoit que, en gros, pour avoir réellement accès à quelque chose, même à minima, même quand on n'est pas un anthropologue ni un ethnologue, on ne peut pas passer que par des interprètes de fortune qui, non seulement nous communiquent dans une langue, mais aussi dans un langage, ce que les interprètes professionnels ont un peu de mal à entendre. On pense qu'au discours, on pense moins à la vie. Et comme la vie était quand même plus forte que le journalisme, en l'occurrence, Getty ne pourra plus écrire d'article, il va abandonner le journalisme peu après, il écrira une très belle pièce de théâtre, en souvenir, en hommage à Felipe l'Indien, qui s'appelle le Quetzal, qui est l'oiseau magique des Mayas, qui est aussi d'ailleurs la monnaie du Guatemala, comme quoi la vérité a toujours au moins deux faces.
Merci beaucoup Marc Ravette pour cette histoire passionnante qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture. Une réaction Mathieu Guider à l'histoire de Marc?
C'est véritablement la synthèse de ce qu'il vient de dire, c'est que le pouvoir du langage à influencer la perception sur la réalité est fondamental, il est considérable. Lorsque la vie est en jeu, il ne s'agit pas uniquement de traduire des mots. Mmh. Vous avez la vie des gens parfois qui est entre les mains d'un traducteur, d'un interprète. Et là, dans ce cas présent, les mots sont parfois impuissants à sauver ou à rendre ce sens-là.
Et puis on parlait juste avant l'histoire de Marc du nom de cette intervention en Libye. La coalition parle de l'aube de l'Odyssée. En France, on a un nom spécifique qui est l'Harmattan.
Oui, en fait, c'est toute une doctrine, si vous voulez, cette histoire de nom d'opération militaire. Chaque pays a sa propre manière de dénommer les opérations militaires. En France, il y a même un organisme très important qui s'appelle le Centre de planification et de conduite des opérations, qui dépend de l'état-major des armées et qui donne le nom des opérations militaires. C'est lui qui, par exemple, a donné le nom de l'opération Daguet, on se souvient. Et il veille à ce que le nom des opérations soit neutre et qu'il ne soit pas péjoratif ni dévalorisant pour celui qui le reçoit. En l'occurrence, il a choisi le nom d'un vent chaud du désert. Mais les Américains n'ont absolument pas cette approche. Rappelez-vous, l'administration Bush a appelé l'opération, la campagne contre l'Afghanistan, elle a voulu l'appeler Justice sans limite, Infinite Justice, et bien évidemment les alliés lui ont dit absolument pas, on peut pas l'appeler ainsi, et ça a été rebaptisé cette opération sous la pression internationale en, comme vous le savez, liberté immuable. Mais vous avez toute une doctrine, les Américains utilisent les noms des opérations militaires pour faire peur à l'ennemi et pour
j'en ai un assez effrayant, éclair d'orage
par exemple. Vous avez Desert Storm qui est
la première guerre en Irak, tempête
du désert. Vous avez tout un ensemble. Les Israéliens aussi sont très fort dans le choix des noms d'opérations militaires, mais la plus célèbre reste quand même qui indique cette volonté de l'ennemi de l'écraser, y compris par les mots d'où la guerre des mots. C'est le bombardement, comme vous le savez, en 43, l'été 43, de la ville de Hambourg, lorsque l'opération a été appelée Opération Gomorre. Et l'opération Gomorre, comme chacun le sait, c'est une référence à la Bible, par la pluie de feu venant de Dieu qui va réduire complètement la ville.
On est avec vous, Mathieu Guider. On parle de ces problèmes de langage, de traduction dans les lieux de conflit. On va faire une petite pause. On va écouter la chronique d'Alexis Patostef. Alexis qui nous parle aujourd'hui d'une nouvelle religion en Inde et on se retrouve juste après, Mathieu Guider. Écoutez.
Was it challenging for you though, acting in with people that are acting in English, for example, which you haven't done?
Of course, yeah, because this is a language you've never spoken. You, all your life you've spoken in Hindi, of course. Speaking in English was a challenge.
Voici une conversation que j'ai vue sur la chaîne indienne Hindi TV. L'acteur indien typiquement Bollywood, révélé sur la scène internationale par le film Slumdog Millionaire, Anil Kapoor, raconte sans autre travail le tournage de la 8e saison de la série 24 heures chrono, dans laquelle il joue le rôle du président de la République islamique du Khamistan. Il nous fait une révélation. La chose la plus difficile pour lui a été de parler anglais. Dans l'état de Punjab, d'où vient Anil Kapoor, l'anglais n'est pas la langue la plus utilisée. On parle surtout le Punjabi, mais aussi le hindi. Après l'indépendance du Royaume-Uni en 1947, les gouvernements indiens ont déployé des efforts considérables pour que le hindi devienne la langue officielle du pays. Mais les résistances régionales étaient grandes. Dans l'état du sud de Tamil Nadu, par exemple, où on parle le tamoul, les gens s'immolaient contre ce qu'ils percevaient comme une nouvelle colonisation, cette fois-ci linguistique. Il fallut donc trouver un compromis et il fut décidé que pour les administrations, le hindi partagerait le statut de langue officielle avec l'anglais. Une langue par défaut, une langue des colonisateurs, bon, une langue étrangère. Mais, chose curieuse, plus les années passent depuis l'indépendance et plus l'anglais prend du poids. Voici un exemple.
Went up the hill to face a fellow barter, Jack fell down and broke his crown and Jill come there.
La même chaîne indienne qui a diffusé l'entretien avec l'acteur de Slumdog Millionaire montre un reportage sur la naissance de la nouvelle religion. On vient d'inaugurer un temple pour une déesse dans l'état d'Uttar Pradesh, un temple dédié à la Goddess English, à la déesse l'anglais. Une déesse de la langue. Honnêtement, je n'ai jamais vu encore ça nulle part. Le temple se trouve dans un village pauvre du nord du pays où habitent les fameux Dalits, les intouchables. On peut également traduire Dalit par opprimé. Ils sont exclus du système des castes traditionnels et ils sont vraiment très pauvres. Le temple a été construit par certains Chandrabhan Prasad. Il croit que c'est la langue anglaise qui amènera finalement la prospérité, mais surtout qui libérera les intouchables de l'emprise de la culture indienne. Car oui, c'est la culture indienne qui a relégué les habitants du village au rang d'intouchables en bas de l'échelle sociale. C'est peut-être pour cela que la déesse de la langue anglaise rappelle beaucoup les statues de la liberté qu'on voit à travers les fenêtres de la maison de la radio à Paris. Évidemment, M. Prasad a imaginé des rites. Pendant les cérémonies de mariage, par exemple, les jeunes mariés devront inscrire les lettres A, B et C sur un bout de papier en signe de la promesse qu'ils font d'apprendre l'anglais à leurs futurs enfants. Ils pensent également à s'inspirer d'une tradition musulmane et accrocher un haut-parleur pour qu'ils diffusent tous les jours à 5 heures du matin l'enregistrement d'une voix chantant tout l'alphabet anglais de A à Z. Il ne s'agit là que de symboles, mais que peut faire d'autre M. Prasad en l'absence d'une véritable support politique pour l'apprentissage de l'anglais? Car en Inde persiste une situation curieuse. Les enfants des hommes politiques vont dans des écoles privées où l'éducation se fait en anglais et font ensuite des brillantes carrières, tandis que dans leur circonscription, ces mêmes politiques se battent contre l'anglais. Les enfants des pauvres vont dans les écoles publiques où l'apprentissage se fait uniquement en langue locale. Malgré le fait que presque tous les panneaux publicitaires en Inde sont en anglais, que l'éducation supérieure se passe entièrement en anglais et que la perspective d'obtenir un travail qualifié s'ouvre uniquement devant ceux qui maîtrisent bien la langue de l'ancien colonisateur, on ne peut pas dire que 100% des Indiens parlent bien l'anglais. mais j'ai l'impression qu'entre fierté nationale ou régionale et avenir prospère, chaque couche sociale, pour ne pas dire de chaque caste indienne, sera bientôt obligée de faire son choix. Les intouchables prient pour que la déesse de la langue anglaise ouvre à leurs enfants les portes de la prospérité.
France Culture, 11h passé de 39 minutes, vous écoutez Culture Monde. Merci pour cette chronique d'Alexis qu'on peut retrouver bien sûr sur le site internet de France Culture. On va partir tout de suite pour l'Irak. Nasir Chama, maître de oud, le nouveau sultan du luth arabe, pour accueillir le docteur Haseb Haddad, maître de conférence à l'université de Mossoul, qui a suivi des études en Irak, à l'université de Mossoul et de Bagdad, mais aussi en France, qui est allé également en Grande-Bretagne pour perfectionner son anglais dans les années 80. Bref, voilà un homme imprégné des langues, mais aussi des cultures du monde. Je lui ai demandé, ce docteur Haseb Haddad, comment il jugeait le rôle des traducteurs-interprètes dans le conflit irakien.
Comme vous le savez, en Irak, on a des expériences vécues concernant le rôle des traducteurs-interprètes. Moi, personnellement, je n'ai aucun rôle dans le domaine de la traduction depuis 2003, c'est-à-dire avec l'invasion, etc. Mais j'ai entendu parler de la situation des traducteurs. Quand le traducteur-interprète fait un tel travail pendant les conflits, il est toujours exposé au danger, vous savez. Pourquoi? Parce qu'il sera entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, il sera entre deux feux, là. Vous voyez? Et pour ce qui est de rôle traducteur, interprète, il n'est autre qu'un enquêteur dans ce cas-là. C'est-à-dire, il est déjà sorti de son travail pour prendre une autre orientation. C'est un changement tout à fait imprévisible parce qu'il commence en tant que traducteur-interprète et il finit comme un enquêteur. Moi, je dis comme ça parce que vous savez, il travaille, peut-être il commence son travail comme ça pour faire la traduction. Mais après, il se trouve inconsciemment plongé vraiment dans un autre domaine. C'est ça le problème. Et pour ça, il sortira avec les mains nettes, c'est-à-dire il y a le problème avec la société, avec les gens, etc. Parce que là, il a, ou bien son métier a été changé. C'est pas lui, il n'a pas changé son métier, mais son métier a été changé. Une telle situation, il y a une soixantaine d'années, par exemple, en France, pendant la résistance et l'occupation allemande, vous avez une telle expérience vécue. Je crois, vous avez pas mal d'expérience, vous-même.
Le docteur Haseb Haddad, maître de conférence à l'université de Mossoul, qui nous parlait depuis Mossoul. Mathieu Guider, vous aviez, vous, écrit un livre, Iraq in Translation, dans lequel vous aviez mené une enquête sur ces fameux traducteurs-interprètes, ces fameux linguistes, qui ont assuré donc le lien entre les populations, les civils irakiens et les soldats américains, et dont on sait évidemment aujourd'hui le tribut considérable qu'ils ont payé. Vous expliquiez à l'époque que l'une des raisons profondes des difficultés des États-Unis en Irak, mais de façon peut-être plus générale au Moyen-Orient, tiennent à cette défaillance, à cette incompétence en matière linguistique. Est-ce que vous pensez, Mathieu Guider, que des leçons ont été tirées de cette insuffisance?
Oui, alors le docteur Haseb Haddad de l'université de Mossoul parle avec beaucoup de pudeur de cette situation dramatique des traducteurs et des interprètes en Irak qui ont payé un lourd tribut. Alors, il a utilisé un mot intéressant, des images intéressantes. La première, c'est il a dit que les traducteurs étaient entre le marteau et l'enclume. Mmh. C'est vraiment ce qui caractérise cette situation, mais il n'a pas précisé qui était le marteau et qui était l'enclume. Le marteau, en l'occurrence, ce sont les forces armées américaines qui exigent un certain nombre de choses des traducteurs, et l'enclume, c'est la société, et en particulier l'insurrection, la résistance irakienne, qui exige autre chose de ces interprètes traducteurs, alors que eux, ils pensent faire leur travail dans l'indépendance. La situation irakienne a été très compliquée pour une raison simple, c'est que pour une fois, les traducteurs n'étaient pas là et les interprètes n'étaient pas là uniquement pour faciliter la conquête du pays. Il n'était pas question de conquérir le pays, de s'installer. On se souvient des interprètes, des traducteurs qui ont fait gagner la guerre de Gilgamesh, la ancienne, chez les Égyptiens. Là, ce n'était pas le cas. Ils étaient censés aider la rencontre des deux pour la démocratisation d'un pays. En tout cas, pour le changement des mentalités, le changement du système qui était sur place. Et c'est là la difficulté. Ils n'étaient pas formés pour cela. Alors, est-ce que depuis, des leçons ont été tirées? La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on regarde l'Afghanistan aujourd'hui, qui est l'autre territoire sur lequel, terrain sur lequel les Américains interviennent et la coalition, la chose majeure qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, alors que 95% quasiment des interprètes traducteurs qui intervenaient en Irak étaient extérieurs à l'Irak, en Afghanistan, c'est tout à fait l'inverse qui se passe aujourd'hui. On a quasiment 95% des traducteurs et des interprètes qui interviennent en Afghanistan, qui sont des Afghans. Mais malheureusement, sur le terrain, on constate que ça ne change pas grand-chose.
Les pays arabes avaient été traumatisés, Mathieu Guider, par l'intervention américaine en Irak. Est-ce que le regard a changé aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, il existe une crainte aujourd'hui encore, s'agissant de cette intervention en Libye?
Oui, considérable, considérable. C'est-à-dire que là, le monde arabe, le monde musulman en général, a été traumatisé par l'intervention de 2003 en Irak. Et pour lui, aujourd'hui, quasiment chaque intervention dans les pays arabes, chaque ingérence est considérée. Ils s'attendent à ce que ça aboutisse à la situation irakienne, qui n'est pas fameuse, y compris après 7 ans, 8 ans. Et donc, il faut faire très attention à cela, parce que la seule référence que nous avons aujourd'hui réelle, que les gens ont de l'autre côté de la Méditerranée, de l'intervention de l'Occident dans le pays musulmans, c'est l'Irak malheureusement. Il faut faire beaucoup d'efforts de pédagogie pour la changer.
Mais justement, est-ce que ces efforts de pédagogie passent pas, par exemple, par l'utilisation d'autres canaux médiatiques? Est-ce que, par exemple, les leaders occidentaux n'auraient pas intérêt, pour peut-être mieux faire passer leur message, à intervenir davantage, ou même intervenir tout court, dans des grands médias? Évidemment, Al Jazeera, l'Arabia.
Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que pour cela, vous avez besoin de la traduction. On retombe sur le problème de fond, c'est que les officiels, il y a très peu, même d'intellectuels, de décideurs politiques aujourd'hui qui sont capables de s'adresser au peuple arabe, en arabe, sur les chaînes en question. Et donc, derrière, vous avez toute une infrastructure qui se met en place.
Mais Mathieu Guider, on peut l'organiser, un discours, ça se prépare, on s'assure qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation.
Vous avez très peu de personnes qui maîtrisent l'arabe aujourd'hui, l'arabe classique, sur les chaînes d'Al-Arabiya, et donc les chaînes ne vont pas prendre le soin. C'est plus compliqué de faire un duplex avec un traducteur à partir de Paris. En plus, les Arabes sont très sensibles à l'utilisation que l'on fait de leur langue, parce que c'est une langue littéraire très fine, et donc ça nécessite beaucoup plus que de baragouiner quelques mots ou de faire de la langue de bois politique. Kadhafi parle avec ses tripes au peuple, donc il faut parler avec ses tripes, il faut expliquer les choses. Il ne s'agit pas uniquement de faire des déclarations.
On veut dire qu'en France, il n'existe pas de personne qui pourrait aider Nicolas Sarkozy à préparer un discours pour faire mieux passer son message auprès des populations arabes via, par exemple, des canaux type Al Jazeera ou Al Arabia.
Aujourd'hui, le meilleur discours qu'on ait eu d'adresse au peuple arabe, c'est le discours d'Obama au Caire, devant l'université d'Al-Azhar. C'est la meilleure opération de communication adaptée au monde musulman qui a été faite. Nous n'avons pas d'équivalent jusqu'à présent.
Marc Ravetz, je vois que vous avez envie, une énorme envie d'intervenir.
La réponse à votre question existe dans les faits. Les Américains ont créé une chaîne de télévision de toutes pièces. Al Jazeera a recruté des journalistes de la BBC, même d'ailleurs aussi des journalistes américains, pour communiquer. Donc c'est la question de la communication, si j'ose dire, elle est résolue. Mais là, Mathieu Guibert a tout à fait raison. C'est une question de culture, c'est pas une question. Et quand ça préparait des discours, malheureusement, l'exemple africain ne parle pas forcément en faveur des préparateurs de discours pour le président Sarkozy. Rappelez-vous le désastre du discours de Dakar, sans le juger, simplement. À force de vouloir passer pour je les connais, je sais leur parler, on risque les pires catastrophes.
Vous avez une question à Mathieu Guider?
Oui, alors, et la question c'est à l'inverse. Comment peut-on imaginer, en effet, que c'est pas l'accès des Occidentaux vers les Arabes, c'est comment les Arabes pourraient mieux avoir accès, finalement, aux médias occidentaux, parce que c'est peut-être dans ce sens-là que les choses pourraient s'améliorer, non ?
Mathieu Guider.
Oui, tout à fait. Il a parfaitement raison sur la réciprocité. Et là, on est dans le fondement de la traduction. La question de la réciprocité est fondamentale, c'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, le seul média quasiment qui donne une vraie parole aux Arabes, c'est Al Jazeera, par exemple, ou Al Arabiya, les deux. C'est-à-dire qu'on a le point de vue réel des gens, ce qu'ils pensent concrètement. On a à la fois, bien sûr, les clichés, les préjugés, on a ce qu'ils pensent concrètement. Ce point de vue n'est pas reflété aujourd'hui, effectivement, dans les médias occidentaux, très peu en tout cas, et on aurait tout intérêt non seulement à le refléter, mais en plus à donner un dialogue, une réciprocité. Je suis tout à fait sur cette optique.
Mathieu Guider, il nous reste quelques instants encore. Il y a un rapprochement, en tout cas selon vous, entre aujourd'hui le discours de Muammar Kadhafi et le discours d'Al-Qaïda. Pardon. Je voudrais que vous nous l'expliquiez, que vous nous le fassiez ressentir.
Oui, je crois que c'est en faisant en fait le parallèle entre le dernier message du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est paru avant-hier, et les dernières déclarations de Kadhafi, que je me suis rendu compte qu'ils étaient sur les mêmes termes et qu'ils utilisaient les mêmes arguments, c'est-à-dire globalement le djihad et la guerre sainte. Ils appelaient tous les deux à la guerre sainte contre l'Occident, et en même temps, ils utilisaient les mêmes termes pour désigner les Occidentaux en général. Cette convergence terminologique et cette convergence d'arguments ont fait, en réalité, malgré la haine qui les relie, ont fait des alliés objectifs aujourd'hui, malheureusement, contre les pays qui veulent aider les civils.
Merci beaucoup, Mathieu Guider. Merci d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes professeur de la chaire d'islamologie à l'Université Toulouse 2, que vous êtes agrégé en langue arabe et que vous êtes l'auteur, entre autres, d'Iraq in Translation, qui était paru chez Jacob Duvernay en octobre 2008, Traduction et médiation humanitaire en avril 2010, et puis Le Nouveau Terroriste, ça c'était le dernier, chez Autrement, en 2010 également, et apparaître Le Choc des Révolutions Arabes, qui paraîtra également chez Autrement au mois de mai. Merci infiniment d'être passé dans nos studios. Culture Monde, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci à l'équipe qui a préparé cette émission, à la technique ce matin, Yanis, dont je ne connais pas le nom de famille, Djoudad, voilà. Merci beaucoup. Et également Alexandre Fougeron qui a réalisé l'émission à midi tout juste sur France Culture. Sur France Culture, ce sera La Grande Table avec Caroline Brouet et Hervé Gardette.